privilège, nous sommes privilégiés. Premièrement, nous sommes privilégiés de connaître Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde de connaître Christ. Si seulement les gens pouvaient regarder au fond de notre cœur et comprendre qu'est-ce que ça veut dire de connaître Christ. On a déjà parlé il y a quelques semaines, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Une fois qu'on connaît Christ, une fois qu'on a déjà donc franchi ce pas, une fois que nous avons compris que notre nom est inscrit dans le livre de la vie, une fois qu'on a compris qu'on peut être disciple de Jésus, un des privilèges que nous avons, c'est que nous pouvons demeurer en Christ. C'est-à-dire, en Jean chapitre 15, il est dit que nous sommes donc des sarments qui sont attachés au vrai cep. Et le vrai cep, donc, est Christ, représente Christ. La sève qui passe dans les sarments, c'est la vie de Christ. Pour faire partie de ce cep, pour faire partie de cet arbre, il faut qu'on soit coupé par rapport à notre ancienne manière de vivre. Il faut qu'on soit greffé à Christ. Pour être greffé, si vous voulez greffer une plante, si vous êtes jardinier, vous voulez greffer une plante, il faut que vous coupez quelque chose qui soit entièrement coupé pour le greffer donc au nouveau cep, à la nouvelle racine. Et alors, de la même manière, un des privilèges que nous avons, c'est d'être greffé à Christ et de demeurer en lui. Si vous lisez Jean chapitre 15, il s'agit de demeurer. Si vous demeurez en moi, vous demanderez ce que vous désirez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, vous allez aussi rendre ma joie parfaite. Si vous demeurez en moi, vous allez marcher dans l'obéissance. Nous avons le privilège pas seulement d'être attaché et de dire « je suis à Christ », mais je suis attaché à lui et je demeure en lui. Je demeure en lui et il demeure aussi en nous. Aussi en tant que chrétien, en tant que saint, en tant que personne née de nouveau, disciple de Jésus-Christ, et aussi de ces saints qui sont perfectionnés de jour en jour pour l'œuvre du ministère en vue de l'édification du corps de Christ, nous sommes appelés constamment à participer à sa nature divine. La Bible dit en 2 Pierre chapitre 1, verset 3, verset 4, que comme Dieu nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et la piété, nous avons tous ceux qui contribuent à la vie et la piété. Qu'est-ce que c'est la piété? La piété veut dire vivre selon Dieu, vivre selon la pensée de Dieu, vivre selon la mentalité de Dieu. Et il nous a donné, il nous rassure de sa part, avec des grandes précieuses promesses par lesquelles nous devenons participants de sa nature divine. Aussi, en tant que saint, en tant qu'enfant de Dieu, un des privilèges, c'est qu'on n'appartient pas à un club, on n'adhère pas donc à une association, mais on appartient au corps de Christ, on appartient à l'Église de Jésus-Christ. Alors, quand on appartient à l'Église de Jésus, donc bien sûr, c'est un privilège de savoir. Avant, on était loin de Dieu. On était loin de la maison de la foi. On était loin de la paix. On ne connaissait pas la joie, la consolation, l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes rapprochés et nous sommes partis de la famille de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que toute activité qui doit être faite pour chercher des païens, pour chercher des personnes qui ne sont pas dans la vérité, pour chercher des personnes qui sont ignorantes des vérités spirituelles, doit être basée sur une église locale. C'est-à-dire, il faut que l'église locale, peu importe où est cette église, soit un tremplin pour pouvoir envoyer les personnes, pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être sur les champs dans l'évangélisation. Nous avons parmi nous plusieurs personnes. Il y a Thomas, par exemple, notre frère américain. Lui, donc, il est constamment dans les rues en train d'évangéliser. Il est constamment dans les rues en train de parler aux gens, en train de témoigner à sa façon. Donc, avec son français qu'il est en train d'apprendre, avec sa guitare, avec ses chants. Donc, et alors quand il m'a dit, mais j'ai besoin d'un lieu, j'ai besoin de savoir que j'appartiens, que je puisse sortir, et s'il a besoin d'encouragement, il peut revenir à l'église locale et dire, voilà, prie pour moi, prie avec moi, chose qu'on a déjà vécue. Et plein d'autres personnes. Il y a Christiane qui fait partie des jeunes sans mission, donc qui fait partie de notre église. On la voit presque jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est en mission, parce qu'elle est dans le monde entier, par monde et par vous. Aujourd'hui, je crois qu'elle est en Autriche. Ils vont en Slovénie, peut-être ils vont aller jusqu'à Grèce, où s'est trouvé Chanda pendant quelques semaines. Donc, Adriel et Acacia sont maintenant partis avec Jeunesse en Mission en Afrique du Sud. Donc, c'est bien, mais eux, ils vont considérer toujours que l'église locale, c'est le tremplin. L'église locale, c'est d'où ils sont sortis. C'est-à-dire, il y a une couverture spirituelle. Et en tant tant que membre de la famille de Dieu, en tant que chrétien, nous avons ce privilège d'appartenir à une église. Notre église n'est pas la meilleure, notre église n'est pas la seule, notre église n'est pas l'unique. Chaque église a sa méthode, a sa manière de faire, sa manière d'être, a ses défauts, a ses points forts, et c'est comme ça. Et alors quand une personne se dit, mais moi je sens et j'ai la conviction que je dois m'investir et que je dois être présent et m'investir dans l'église locale, alors si Dieu a mis sur mon cœur, si c'est ici où je me suis converti, ben, c'est là où je resterai pendant plusieurs années. Si je viens d'un autre endroit et que je cherchais une église locale et que je trouve une église, et voilà, il vient voir le pasteur, il dit voilà, je sens dans mon cœur que j'aimerais m'intégrer. Alors, on fait partie, on n'est pas des électrons libres en train de servir Dieu à notre façon. On n'est pas non plus, vous savez, il y a des églises qui offrent donc sur les sites. Donc le live streaming, c'est-à-dire vous pouvez suivre le culte donc voilà sur l'internet. Mais il y a beaucoup de gens qui quittent les églises pour assister au culte sur internet à 10h du matin. Ils viennent plus dans les salles, ils viennent plus dans les lieux de rencontre. Ils ne se rassemblent plus avec l'église. Ils se disent comme ça, je suis tranquille. J'ai pas de 10 000 francs à donner. J'ai des comptes à rendre à personne. Voilà, j'ouvre l'internet et je regarde le culte. Je suis encouragé, je suis inspiré. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a des millions de personnes qui ont quitté les églises aux États-Unis. Je vous ai témoigné de ça l'année dernière. Parce que beaucoup de personnes, maintenant, ils assistent au culte par Internet. Voilà. Alors, par la télévision. Donc, c'est pas ça l'église. L'église, c'est un lieu vivant. L'église, c'est un lieu où ça bouge. L'église, c'est un lieu où on se serre les coudes. L'église, c'est un lieu aussi, un lieu. C'est pas le lieu. Nous sommes le lieu. Mais quand on se rassemble et quand l'église est rassemblée, nous sommes là en train d'apprendre les uns des autres. C'est intergénérationnel. Il faut de la patience. Il faut savoir comment aborder les différentes personnes, les gens qui sont dans différentes saisons de la vie. Il faut savoir comment aborder les personnes. L'église à Dieppe, donc c'est une église où il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup. Hein. Depuis Georgette qui a 95 ans bientôt, jusqu'à Nathan qui a 17 ans. Donc, mais la plupart ont plus de 65 ans et plus. Donc c'est une église qui, voilà, vous n'allez pas donc dire aux gens, mais alors, voilà, bougez-vous, etc. Bien sûr, notre sœur Georgette qui a 94 ans, c'est elle qui bouge le plus, et c'est elle qui est le plus fervente. Mais donc, alors il faut savoir comment nous identifier aux différents cas de figure. Alors l'église aussi, là où les saints sont, nous avons Christ comme pasteur, Christ comme berger. Vous lisez Jean chapitre 10 et vous voyez la description, comment Jésus est le berger par excellence. Mais aussi Jésus-Christ, on a un privilège, il est notre intercesseur, il intercède pour nous, il prie pour nous. Quand tu passes par des épreuves, sache que Jésus est en train de prier pour toi. Est-ce que ça t'encourage? Est-ce que c'est quelque chose qui te réjouit de savoir que tu ne vis pas les épreuves isolées, donc dans un coin perdu? Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. La Bible dit en Romains chapitre 8, verset 34, qu'il intercède pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 25, il intercède pour nous. Et aussi, nous avons un autre privilège, nous avons un avocat auprès du Père. La Bible dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Celui qui se présente devant le Père en disant, Père, j'ai payé le prix, j'ai payé le prix. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on a un avocat, on peut s'adonner à la désobéissance et dire de toute façon, on a un avocat. De toute façon, si la condamnation devient trop forte, si les accusations deviennent trop fortes, on a un avocat. Je vous ai dit qu'il y a quelques semaines, j'ai lu un message de quelqu'un qui disait que la grâce de Dieu était pour nos péchés passés, présents et futurs. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, de toute façon, tout est couvert au moment où Jésus est mort sur la croix. Donc, je peux, voilà, par rapport au passé, je suis pardonné, par rapport au présent, je sais qu'il va me pardonner, mais aussi, je vais faire exprès de lui faire pardonner mes désobéissances du futur. Et il y a des personnes qui commencent à vivre leur mentalité par rapport à la grâce de Dieu, de se dire, voilà, je sais, Dieu me connaît. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Marc, mais je vais retomber dans la drogue, je vais retomber dans les vices. Alors, mais Dieu le sait, mais c'est pas grave, je reviendrai un jour. Je dis, mais c'est pas comme ça que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous libère du péché, la grâce de Dieu qui nous donne une inspiration à vraiment compter sur lui et savoir qu'il nous garde du péché. C'est ça la grâce de Dieu. Alors, nous avons un avocat auprès du Père. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le privilège d'avoir les promesses de Dieu. Combien de promesses dans la Bible? 8000. 321 promesses. Est-ce que vous avez assez de promesses pour les problèmes auxquels vous faites face? Est-ce que vous avez assez de promesses qui pourraient être appliquées à votre situation? Est-ce qu'il y a des promesses que Dieu te donne, que Dieu te révèle? Dans ma Bible qui m'a été volée il y a quelques années dans le métro, mais j'avais noté plein de dates sur les différentes. De temps en temps, j'essaie de me rappeler de ces dates et de les noter dans la Nouvelle Bible. Mais j'avais noté des dates dans lesquelles Dieu m'avait donné un verset, Dieu m'avait donné une parole. Et alors, quand je relisais donc les passages, et tout d'un coup, je voyais et je me rappelais comment Dieu s'était révélé. Les promesses de Dieu. Est-ce qu'on vit des promesses de Dieu? Est-ce qu'on sait que les promesses de Dieu sont oui et amen à tout instant? Et que nous ne sommes pas appelés à essayer de nous défendre nous-mêmes et à essayer de trouver notre chemin nous-mêmes. Les promesses de Dieu sont là. Elles sont oui et amen. Quel privilège aussi que nous avons de pouvoir témoigner avec joie. Témoigner avec joie. Regardez en Ésaïe chapitre 12, où il y a vraiment un témoignage extraordinaire. Et il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue au Éternel, car c'est vrai, tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai pas. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'il soit connu par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants des Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Quel privilège nous avons. Mais aussi nous avons un autre privilège, et c'est celui-là que j'aimerais mettre l'accent. Nous sommes appelés à honorer sa doctrine. Regardons en Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Nous sommes appelés à honorer sa doctrine. C'est quelque chose qui est profond. Quelque chose qui est profond. Comment allons-nous honorer sa doctrine? Tite chapitre 2, et on va lire à partir du verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Si vous lisez Tite, vous allez voir qu'il parle aux jeunes gens, il parle aux hommes âgés, il parle aux femmes âgées, il parle aux jeunes femmes. Vous pouvez lire ce passage, depuis le chapitre 1 et le chapitre 2. Mais ici, il dit, exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, Tite, à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur et digne. Rappelez toutes les exhortations que Paul va faire à Timothée, et il va lui dire, Timothée, veille sur ton enseignement. Timothée, ranime le don qui est venu sur toi lorsqu'on a imposé des mains sur toi. Timothée, garde-toi. Timothée, maintiens donc ta doctrine. Ici, il dit, te montrons toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Nous avons parlé des bonnes œuvres. Nous avons parlé de comment on doit se provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Et donnons un enseignement pur et digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, afin que le diable soit dans la confusion, afin que l'ennemi soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Honorer sa doctrine. Nous ne pouvons rien ajouter à la parole de Dieu. La Bible dit en Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, elle est comme une épée à double tranchant, et elle arrive jusqu'à discerner les pensées, les intentions de notre cœur. La parole de Dieu, elle est complète. Dans le psaume, le chapitre 3, il dit que la parole de Dieu a été épurée, elle a été mise à l'épreuve. La parole de Dieu, elle est parfaite. Nous ne pouvons pas ajouter à la parole. La Bible dit en Apocalypse qu'il ne faut pas ajouter à la parole. Si on ajoute à des paroles qui sont dans la prophétie, on enlève, il y a des sanctions. Il y a des sanctions très très graves. Si vous lisez vers la fin du livre de l'Apocalypse, nous ne pouvons pas ajouter à la parole de Dieu. Bien sûr, dans la parole de Dieu, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais déjà, il dit en Deutéronome, occupez-vous des choses que vous comprenez. Occupez-vous des choses qui ne sont pas cachées. Ne vous souciez pas des choses cachées. Si Dieu veut te le révéler, il te le révélera. Mais il y a tellement de personnes qui se prennent un peu la tête en voulant découvrir les mystères qui sont insondables et incompréhensibles et qui resteront toujours incompréhensibles. Alors occupons-nous déjà de ce qu'on connaît, de ce qu'il nous a révélé. Quand on va honorer sa doctrine, vous savez, les non-croyants, ils ne jugent pas le croyant par rapport à ce qu'il professe, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il déclare comme doctrine. Mais ils jugent nos vies par la façon comment nous vivons la doctrine, comment nous vivons la parole de Dieu. Honorer sa doctrine, la rendre attrayante, l'embellir par des ornements sacrés. Vous savez, la Bible dit qu'on porte un diadème qui dit sainteté à l'Éternel. Placer des garnitures, des perles, des pierres précieuses autour. C'est-à-dire, c'est la manière comment nous présentons la doctrine, présentons la parole de Dieu, présentons cette parole qui nous transforme de jour en jour. Est-ce que la parole de Dieu vaut bien la peine d'être transmise, d'être dispensée, d'être partagée? Il dit en 2 Timothée chapitre 2 et verset 14, étudie, il dit en anglais et en espagnol, et force-toi en français de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, car il sait dispenser droitement la parole de la vérité. Il faut étudier la parole, il faut être saisi par la parole de Dieu. Si nous voulons honorer la doctrine, déjà notre attitude d'amour envers la parole de Dieu. Quel est le psaume, le plus long psaume de la Bible? 119. Combien de versets? 176 versets. Et dans presque chaque verset, vous avez un verbe, une action, une attitude envers la parole de Dieu. J'aime tes statuts. Je me soumets à ta loi. J'écoute ta parole. Rends-moi attentif à tes voix. Ta parole est comme une lampe, donc, sur mon chemin. Seigneur, je marche selon tes statuts. Je garde ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lisez le psaume 119. N'ayez pas peur. Hein. Vous savez, tu es en train de lire voilà, 5 psaumes du jour. On commence avec le premier 1 à 5, le premier du mois. Donc 2 à 10, c'est bien. 11 à 15, ça y est. 15 à 20, bon, il y a un de ces chapitres qui est un petit peu trop long, je ne vais pas le lire aujourd'hui. Mais arrivé au psaume 119, tout le monde dit, bon, le 117, il n'y a que 2 versets, mais le 119, c'est 167 versets, mais il faut toute une année pour la lire. Et en fait, on contourne et on zappe le psaume 119. Mais quelle est l'attitude de notre cœur envers cette parole, laquelle Dieu nous invite ici à honorer au-dessus de toute chose? Comment elle est cette parole? Vous savez, quand Jésus parlait, la foule fut frappée par l'autorité qu'il manifestait. Vous savez, quand il a donné la parabole donc, des deux hommes qui avaient bâti leur maison, l'un sur le sable, l'autre sur un rocher, et à la fin, quand il dit, mais voilà, donc celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. Celui qui l'a édifié sur le sable, c'est un homme qui entend la parole, mais il oublie les choses et il la met pas en pratique. Alors sa ruine est grande. Et ils disent, et ils furent frappés à cause de l'autorité qu'il manifestait quand il parlait. Est-ce que quand tu ouvres la Bible, est-ce que la Bible te parle? Est-ce que tu vois l'effet de la parole dans ton cœur? On connaît Dieu par sa parole. La Bible dit qu'elle est bonne, elle est véritable. La Bible dit qu'elle est mise à l'épreuve, mais elle est saine. Elle est parfois méprisée. Elle est parfois mise de côté. Je me rappelle, 2-3 mois après notre arrivée, en 1982, on est arrivé en 81, mais en 82, janvier-février, on assistait à une étude biblique. Et on nous a dit, c'est une étude biblique débat sur la Bible. Je dis, ah bon, c'est intéressant, j'ai jamais assisté à un débat sur la Bible, mais on y va. Et on est allé. Donc nous, on comprenait un petit peu, Denise et moi, on était là, assis, ça faisait à peine 3 mois qu'on était là. Et le pasteur, il a dit quelque chose, et quelqu'un l'a contre-attaqué, c'était une trentaine de chrétiens. Mais tu crois que l'apôtre Paul veut qu'on se soumette à ce qu'il a écrit il y a 2000 ans? Je dis, quoi? C'est des chrétiens? Et pendant 2 heures, on l'a attaqué, mais de tous les côtés, je me suis dit, mais c'est ça une étude biblique débat sur la Bible. Je me suis dit, jamais de la vie, j'aurai un débat donc dans notre église. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai vu qu'ils se permettaient de contester, ils se permettaient de mettre en doute certains aspects absolus de la parole de Dieu. Vous savez bien qu'il y a des aspects absolus. Ça veut dire, le salut, c'est incontournable. Le sang de Jésus, c'est incontournable. La naissance ou la conception immaculée de Jésus, incontournable. On ne peut pas dire autre chose. La mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, incontournable. Il y a d'autres points. L'homme, le péché, les conséquences du péché. L'enfer, c'est incontournable. On ne peut pas nous dire, bon, il ne faut plus parler de l'enfer parce que les gens vont fuir, les gens vont se sentir gênés. Ah non, il faut parler de l'enfer. Il faut parler du ciel. Il faut parler de l'éternité. C'est des choses incontournables. C'est des absolus. Sur ces choses-là, on ne peut pas donc argumenter, on ne peut pas avoir des grands débats. Mais il y a d'autres choses qui se prêtent à la spéculation. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est pour ça que la Bible est très intéressante, et c'est pour ça qu'on peut passer des années à voir. Il y a des livres qui parlent des contradictions, donc parce que Paul a dit une chose, et donc dans un autre endroit, il a dit autre chose, etc. Mais ce n'est pas des choses absolues, c'est des choses qui se laissent à la spéculation et que Dieu nous permet de spéculer, ok ? Par rapport aux dons spirituels. Mais ce n'est pas, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. La Bible ne le dit pas. Donc ce n'est pas, oui, nous savons que ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, nous savons que ceux qui pratiquent les dons spirituels, nous savons que ceux qui parlent en langue s'édifient eux-mêmes. Alors pourquoi priver les personnes de s'édifier eux-mêmes en Christ ? Donc, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va imposer nulle part. Donc il y a des choses absolues et des choses qui sont laissées à spéculation. Mais la parole de Dieu, elle est saine. Le résultat de cette parole, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer. Il y a une valeur suprême dans cette parole. Alors, elle est ce qu'elle est. Et nous ne pouvons pas la changer. Nous ne pouvons pas la contester. Il y a des versets qui se prêtent à interprétation symbolique. Il y a d'autres versets qui sont littérales. Il y a des paraboles dont Jésus a parlé en parabole. Il a parlé de telle manière que les disciples et ceux qui le suivaient comprennent. Mais il y avait les autres qui restaient un petit peu dans l'aveuglement. Ils ne comprenaient pas. Et donc pourquoi ? Parce que Jésus parlait un petit peu en symbole, parlait un petit peu en explication. Donc, et alors il y a des choses symboliques. On ne peut pas dire que des choses symboliques sont littérales, etc. C'est pour ça qu'il faut étudier la parole de Dieu. Mais elle est ce qu'elle est. Alors comment est-ce que nous pouvons l'honorer. Alors, nous savons que la France est bien connue par rapport à la présentation des plats. La présentation des plats. Une fois, donc, je suis allé avec un frère donc, visiter quelqu'un qui avait été, pas un général, mais quelqu'un dans l'armée donc française. Et alors, on est allé dans un grand restaurant. Un grand, grand restaurant. Hein. Et alors, ils sont venus. Et donc, bon, moi j'avais commandé, je ne me rappelle pas ce que j'avais commandé, ils avaient commandé aussi. Et alors, c'était tellement présenté de telle manière que tout était tellement décoré autour. Il y a un petit morceau de viande comme ça, mais comme ça. Et deux, trois petits pois. Et alors, je disais, mais bon, moi je pourrais manger cinq assiettes comme ça, ou plus. Hein. Mais donc, eux, ils se vantaient dans la décoration. Alors chaque fois, ils ont emmené cinq plats, etc. Mais chaque fois, c'était des petites portions. Mais c'était tellement décoré qu'on ne pensait pas à la petite portion. Alors le dessert, je ne vous raconte pas. Hein, c'était de quelque chose qui semblait à une montgolfière, hein, donc en chocolat, donc entrelacé. J'étais là, je disais, mais ça va tomber, non ? Ça ne tombait pas. Bon, il y avait deux petites fraises en dessous. Alors je disais, bon, d'accord, c'est... voilà. Mais c'était la présentation. Alors eux, ils voulaient faire honneur à ceux qu'ils servaient. Je ne dis pas que tous les restaurants sont comme ça. C'était comme ça à ce moment-là. J'aurais pensé qu'ils nous donnaient vraiment un assiette copieux qu'on serait sorti de là en disant « Mais on a bien mangé à notre faim. » Mais on a mangé, mais selon la décoration qu'on a observée. Alors, qu'est-ce que les gens observent en nous lorsqu'on va présenter la parole de Dieu ? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, disait l'apôtre Paul, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue en elle-même. Mais l'esprit vivifie. J'ai mis en elle-même entre parenthèses, je n'ai pas ajouté, mais tout simplement pour l'expliquer, la lettre en elle-même. La Bible dit telle chose. Ça, c'est du légalisme. S'il n'y a pas de l'amour, lorsqu'on va parler de ce que la Bible dit, on ne va pas vivifier ceux qui entendent la parole qui sort de notre bouche. Il y a beaucoup de légalistes sur la face de la terre. Il y a beaucoup des églises légalistes. Il y a beaucoup des églises légalistes qui ont fait fuir la jeunesse, qui ont fait fuir des jeunes couples, qui ont fait fuir. Pourquoi ? Parce que ils voulaient être tellement, tellement fidèles à ce que la lettre disait. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. L'esprit vivifie. La lettre en elle-même, hein, oui, on a la connaissance, mais il y a l'amour avec lequel nous allons dispenser cette parole. Comment pouvons-nous l'honorer ? Premièrement, Jacques chapitre 1, verset 22, il nous dit qu'il faut la recevoir avec douceur. Avec douceur. Est-ce qu'on reçoit la parole avec douceur ? Est-ce que quand le Saint-Esprit va nous parler, est-ce que immédiatement il trouve dans notre cœur une attitude de douceur ? Jacques chapitre 1, verset 21, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous savons que la parole de Dieu nous touche, notre esprit est touché, mais notre âme est en voie de perfectionnement, il est en voie d'être transformé, et c'est par la parole de Dieu que notre âme va être transformée. Il dit en Romains chapitre 12, verset 1, verset 2, je vous supplie, disait l'apôtre Paul, présentez à Dieu, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Car si vous êtes transformé par le renouvellement de votre entendement, vous allez comprendre ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Donc au fur et à mesure que je lis un verset, je vais l'appliquer à ma vie. Mais premièrement, je vais la recevoir avec douceur. Douceur. Non, Saint-Esprit, je ne veux pas... Non, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça que je voulais que tu me dises aujourd'hui. Ah bon ? Mais si c'est là, peut-être dans ta lecture suivie, c'est là le verset où Dieu veut te parler. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré une femme qui était vraiment difficile avec son mari. Donc ça fait plus de 30 ans, hein, donc n'essayez pas d'imaginer si c'est quelqu'un ici. Alors elle me disait, mais tant que le Saint-Esprit ne me révèle pas que je ne peux pas lui crier dessus et lui dire toutes ces vérités, je n'arrêterai pas. Je lui ai dit, mais attends, je peux te donner des versets. Ah non, mais il ne les a pas encore révélés. Hein. Alors je disais, mais attends, mais la Bible est là. Recevez avec douceur cette parole. 1 Jean 2, verset 3 à 6 nous dit qu'il faut la recevoir dans le but de la garder dans nos cœurs et de la mettre en pratique. 1 Jean 2, verset 26 nous dit qu'il faut demeurer dans sa parole. Philippiens 1, 27 nous dit qu'il faut la recevoir et il faut marcher d'une manière digne. Il faut se conduire d'une manière digne d'après la parole que nous avons reçue. Nous voyons, en lisant la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en nous. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude. Hein. Bon, vous pouvez prendre l'habitude, vous lisez 5 psaumes par jour et vous pouvez lire les psaumes une fois par mois. Pourquoi ne pas lire les psaumes une fois par mois, même s'il y a le psaume 119, le psaume 78 qui est très long aussi, et le psaume 22 qui décrit donc le sacrifice de Jésus est tellement long, c'est plus de 40 versets, mais il est une richesse. Et alors quand on a la parole de Dieu en nous, on veut la transmettre. Mais comment est-ce qu'on va l'honorer? En disant, voilà, je vous sers la parole, je vais dispenser cette parole de vérité, mais je vous l'offre avec la décoration autour de mon témoignage. Je ne suis pas parfait. Et des fois, il faut même demander pardon à des gens inconvertis. Hein, parce qu'on a une mauvaise attitude. Parce qu'on a, voilà, Parce qu'on ne sait pas, on s'est fâché, on a vécu une crise, et oui, si on le fait, mais bon, excusez-moi, pardonnez-moi, etc. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que la prochaine fois que j'ouvre ma bouche, vous vous rappelez de cette crise, vous vous rappelez de cette colère, et que vous dites, mais ce que tu dis est moins fort que ce que tu fais. Donc moi, je suis plutôt distrait par ce que tu fais, et je ne veux pas entendre ce que tu dis. Alors notre témoignage, en Matthieu chapitre 5, verset 16, il faut luire, il faut que la lumière ne soit pas cachée. C'est comme ça qu'on va honorer la parole de Dieu. À tout instant, on ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, je vais être éteint. Aujourd'hui, je vais aller au travail incognito, alors je ne vais rien parler, je vais pas ouvrir la bouche. Je ne vais pas parler de l'Église, je ne vais pas répondre si on pose des questions sur la vie, sur Christ, etc. Je vais essayer de m'éteindre. Mais c'est impossible. On reflète la lumière de Christ. Lisez avec moi en Matthieu chapitre 5, après les béatitudes. Vous voyez quand il dit, mais vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il y a vraiment des déclarations faites de sa part à notre égard. Verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Matthieu 5, verset 13, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vrai, si vous prenez du sel qui est fade, vous le jetez. Hein? Alors, en tant que sel de la terre, on donne soif aux autres. On donne envie aux autres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient son Père qui est dans les cieux. En luisant, nous honorons la doctrine. En cherchant à vivre selon la vérité, nous honorons la doctrine. En ayant un témoignage d'être des personnes intègres, nous honorons la doctrine. En pensant aux choses qui sont pures, justes, vraies, honorables, qui mérite l'approbation, vertu de louange, selon Philippiens chapitre 4, verset 8. Nous honorons la doctrine. En témoignant avec efficacité, nous honorons la doctrine. Pourquoi ? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'abondance du cœur, la bouche parle. Je vous témoigne, des fois, j'ai parlé avec des gens qui me disent, parlez-moi de votre Dieu, mais sans votre Bible. Pas de problème. Alors voilà, je nous lance sur la conversation, on parle de la pluie, du beau temps, on parle de ci, on parle de ça, et tout d'un coup, je mets un verset de la Bible, que je cite par cœur, et ils me disent, alors, vous pouvez dire ça, vous pouvez répéter ça. Et ils vont dire, mais ça m'a touché. Je dis, mais c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit en Ésaïe chapitre 55, verset 11, si vous pourriez découvrir ce secret, sa parole ne peut pas revenir sans avoir produit en effet chez ceux qui l'entendent. C'est pour ça que quand on annonce la parole sur la place de la Bastille, et quand on lit la Bible, et quand on lit ces passages dans le micro, et que les gens entendent, et que les gens sont saisis, et que les gens sont touchés, je vous assure, il y a un impact. Et moi, je sais que dans l'éternité, je vais arriver au ciel un jour, et quelqu'un va venir me voir, il me dit, vous savez, un jour, je suis passé au marathon de l'écoute de la Bible, à Bastille, je me suis moqué de vous, comme les satanistes l'ont fait, donc il y a, en 2003, on a eu des satanistes qui se sont moqués de nous pendant 10 minutes, jusqu'au moment où l'un a crié, les satanistes n'ont pas le droit d'écouter la Bible, ils sont tous partis en courant. Ils étaient habillés en cape noire, avec des serpents métalliques qui descendaient et tout, les cheveux longs, les capes, etc. Ils sont tous partis en courant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas résister à la parole de Dieu. Et moi, je suis convaincu que chaque fois que je dis un verset, il y aura un impact éternel. Il y aura quelque chose qui va se passer. La parole de Dieu ne peut pas revenir sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent. De la même manière, comme la parole de Dieu a été semée, elle va produire un effet, elle va produire un fruit. Moi, j'aimerais surtout que nous, en tant qu'église locale, on soit mordus de la parole de Dieu. On soit touché chaque jour, saisi par la parole. On peut écouter dans les écouteurs, on peut écouter aujourd'hui sur les smartphones. On peut entendre des passages entiers. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'endorment le soir en écoutant la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Ils se lèvent le matin en écoutant. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de s'asseoir et lire mot par mot. Bon, moi, je vous dis, n'amenez pas vos téléphones pour regarder les passages ici dans l'église. De toute façon, ici, il n'y a pas de wifi, on sait bien. Mais pas de réseau. Mais continuez à feuilleter, continuez à voir la parole, parce que c'est cette parole que vous allez honorer. Honorons en tout sa doctrine. Honorons en tout sa doctrine. Je voudrais vous encourager, c'est un privilège que Dieu nous donne. Il nous accorde ce privilège. Cette semaine, j'étais à un enterrement. Une dame de 90 ans, avec deux nièces. Et on n'était que trois dans l'église. Et bien sûr, les personnes qui parlaient d'elle, parce qu'elle était athée, hein, bien sûr. Oui, elle est devenue enfant de Dieu le jour qu'elle s'est fait baptiser. Ou elle a été baptisée par ses enfants. Elle est au ciel directement. Et c'est quelqu'un qui rejetait la parole de Dieu. On l'a connue depuis plus de 30 ans. Denise a eu des paroles très dures envers Denise, donc par rapport à un témoignage, etc. Et alors j'étais là et je me disais, bon, déjà, trois personnes. Tam arrive à 90 ans, elle a des familles, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas de descendants, mais quand même, elle avait beaucoup, beaucoup de familles. Trois personnes présentes. Et là, on parlait des premières. Ah oui, ils ont dit, bon, on va prier pour qu'elle puisse, voilà, qu'elle puisse être pardonnée, hein, même si elle est morte, mais il faut qu'elle soit pardonnée maintenant par le purgatoire, etc. Et j'étais là, mais je pleurais dans mon intérieur. Je disais, mais si seulement ils pouvaient connaître la vérité, seulement ils pouvaient connaître la lumière. Et pourquoi je la mentionne? Parce que tous les jours, il y a des gens qui meurent. Est-ce qu'ils meurent avec Christ ou sans Christ? Nous, on a fait tous les efforts pour parler à cette dame de Christ. On lui a envoyé des livres, on est allé lui rendre visite. Donc, on la connaît depuis plus de 30 ans. Et alors, quand dimanche dernier, j'allais à Dieppe, je me suis dit, j'ai entendu dire qu'elle était dans cette maison de retraite. Je m'arrête à la maison de retraite, je rentre, ils me disent, il vient de sortir avec sa dépouille, elle vient de mourir ce matin. Et bien sûr, moi j'avais pensé, je vais la voir encore une fois, je vais lui dire encore une fois, je vais essayer de parler avec elle. Bon, voilà, elle était partie. Alors, notre parole a un tel impact, une telle efficacité, si seulement elle pourrait être cette parole que nous en aurons jour après jour. Je vous encourage, je vous encourage, constamment, dans la parole de Dieu, constamment, en honorant la doctrine de Christ. Et c'est ainsi que le nom de Dieu sera glorifié. Prions. Seigneur, nous te remercions ce matin, parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Et tu nous as donné le privilège de la transmettre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas être maladroit. Parfois, on peut être maladroit dans notre façon de faire. Peut-être, parfois, Seigneur, on peut donc être trop zélé. Peut-être, parfois, on est impatient dans notre manière de faire. Fais-nous considérer que chaque fois qu'on est en train de transmettre ta parole, on est en train d'honorer ta doctrine dans sa présentation. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons marcher, Seigneur, dans tes voies. Nous voulons chaque jour, Seigneur, veiller sur nos paroles. Nous voulons, Seigneur, marcher dans ta vérité. Nous voulons marcher dans ton amour, Seigneur. Et que les personnes, Seigneur, qui nous voient vivre, que lorsqu'on ouvre la bouche, ils soient attentifs, parce qu'ils voient que ce qu'on dit va avec ce qu'on est. Merci Seigneur, parce que tu travailles notre être, ce que nous sommes, Seigneur, avant de nous pousser, aller, avant de nous inspirer à nous rendre quelque part et faire des choses pour toi. Seigneur, travaille notre cœur. Nous soumettons à ta parole. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité de mon sanctuaire, mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et accomplir et faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, que chacun de nous, on puisse, Seigneur, être saisi. Merci parce que nous avons des Bibles entre nos mains. Il y a des pays où il n'y a pas de Bible. Il y a des pays dans les églises où il se passe donc un livre ou un chapitre. Et tout le monde doit copier à la main le chapitre qu'ils ont cette semaine-là, parce qu'il faut la passer à un autre frère dans l'église, dans les pays où les églises sont persécutées. Ils n'ont pas des Bibles en masse comme nous les avons. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à apprécier. Mais Seigneur, aide-nous surtout en toutes choses à honorer. À honorer. Et en honorant ta parole, nous sommes en train d'honorer Christ, la parole vivante. Seigneur, révèle-toi à nos cœurs et à nos vies. Au nom de Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.